On y va. La discussion, j'ai faim, mais au début, tu prends toi, tu commences.
Pour la discussion, d'accord.
Et après moi, et après...
Alors, on commence. Alors, d'abord, deux petites réflexions. Quand j'ai lu le programme de notre année, je me suis dit, oh, jouissance, amour et satisfaction, c'est vraiment benthamien, c'est le bonheur, quoi. C'est le bonheur pour tous, si on prend la jouissance dans le sens positif. Hein, ça serait presque un programme benthamien du bonheur. Alors, ça fait d'ailleurs un peu pléthore, un peu trop pour un désir insatisfait ou impossible. Mais bien vite, quand on se met au travail avec encore, la promesse ne tient pas. Il faut travailler. Alors, ça me paraît toujours difficile, hein, ce séminaire encore, parce que c'est pas que j'y suis insensible, mais plutôt, il est pour moi comme un poème d'amour, Lacan aime les femmes, et comme tout poème d'amour, on a envie de se laisser un peu bercer par les beaux mots. Et on n'a pas envie de le décortiquer, quoi. Je dis poème parce qu'il cisèle la place d'une jouissance féminine, pourtant impossible à répertorier. Et en opposition à cette mélodie amoureuse, Lacan fait un appel incessant à des logiques mathématiques, d'ensemble, modales, philosophiques, qui éclairent et obscurcissent son texte et son propos. Finalement, encore est une sorte d'ovni pour moi. Alors, venons-en à cette phrase à commenter qui concerne la jouissance du corps de l'autre en tenant compte, si possible, des apports de nos soirées antérieures. Alors, je me dis tout de suite que toute jouissance suppose un corps et donc, pouvons-nous raccourcir et faire équivaloir la jouissance de l'autre, la jouissance du corps de l'autre, la jouissance du corps représentant symboliquement le lieu de l'autre. Question donc sur les différentes formulations de la jouissance dite de l'autre. Mais ici, c'est à propos du réussi de la copulation lorsqu'il y a jouissance sexuelle d'une femme dans un couple hétérosexuel, ceci par déduction logique de la suite du texte. Je suis trop vite ? Je ralentis. Donc c'est dans l'après-coup de lecture qu'on pense qu'il s'agit de la jouissance sexuelle d'une femme dans un couple hétérosexuel, comme Colette nous l'a bien souligné. Après tout, on pourrait dire que des hommes peuvent éprouver, s'ils sont côté femme, des formules de la sexuation, une jouissance du corps que l'on dirait féminine. Point d'interrogation. Alors, là, je fais du pas à pas du texte. Hein, je suis absolument tout ce qui se passe dans le texte. D'où part, donc c'est ma question, et c'est comme une énigme à résoudre, d'où part ce qui est capable, de façon non nécessaire et non suffisante, de répondre par la jouissance du corps de l'autre. La première réponse que Lacan élimine est l'amour. On ne peut être que d'accord, il n'est absolument pas nécessaire d'aimer pour jouir sexuellement parlant. Et d'ailleurs, l'amour embrouille toujours beaucoup l'humain. Voir ces femmes qui dissocient leurs hommes dans des fonctions différentes, père, amant. Donc, on peut dire qu'il n'est pas nécessaire à l'amour qu'il y ait jouissance du corps de l'autre. Pas nécessaire pourquoi ? Parce que l'insatiable de la demande d'amour fait dire encore. Et en plus, ça n'est pas suffisant. À quoi ? À prouver l'amour, parce que la faille de la demande d'amour semble incomblable. La demande d'amour porte un indicible de ce qui s'ignore dans sa requête. C'est une phrase que j'aime beaucoup, une phrase de Lacan dans La direction de la cure, moment où il travaille les étagements du besoin-désir-demande. C'est une des grandes constances de Lacan que de penser la demande d'amour comme ne se satisfaisant d'aucune réponse, d'aucune preuve. C'est un appel à l'au-delà, c'est-à-dire à un dire que non à n'importe quel objet de la demande d'amour. Bien sûr, il faut entendre cela dans la psychanalyse, parce que dans la vie, nous avons quand même à donner quelques objets comme non pas preuve de l'amour, mais signe seulement du précieux pour nous de l'existence de l'autre, de nos autres. C'est une des difficultés de ce texte aussi de nous mettre avec Lacan dans nos lits. être avec Lacan dans nos lits, c'est quelque chose. Hein. Alors qu'il s'agit de psychanalyse, et d'ailleurs, le lit n'est loin de là, pas le seul lieu de l'échange sexuel. Le divan et le lit, où le pas de rapport sexuel s'inscrit, de n'avoir rien à faire avec une quelconque jouissance sexuelle, si ce n'est la jouissance phallique que porte la parole. Alors, revenons à ce nécessaire et suffisant, en négatif dans la phrase. Ce sont des termes utilisés en mathématiques et dans le système des ensembles qui soulignent des implications logiques, possibles ou impossibles, c'est-à-dire permettant des certitudes conclusives, mais qui n'ont pas forcément de lien de causalité. Ce sont des connecteurs logiques. Exemple, il pleut. Pour qu'il pleuve, il faut qu'il y ait des nuages, nécessité. Mais les nuages ne sont pas une condition suffisante pour qu'il pleuve. En géométrie, des diagonales perpendiculaires qui se coupent en leur milieu sont la condition nécessaire et suffisante à l'existence d'un losange, et la réciprocité est vraie. Et puis je reprends le néologisme de Lacan sur l'omelette, mais là ce ne serait que logico-mythique. Pour faire l'homme, il faut casser l'œuf, d'où s'échappe la lamelle, mythe de la libido qui serait mortelle si elle venait à étouffer le petit homme. Mais pour humaniser le petit, on peut dire que l'omelette est nécessaire, mais certainement pas suffisante. Il lui faut encore un désir particularisé qui fait acceptation de son être et qu'il s'insère dans le langage par le biais de la langue. Alors, après avoir parlé de l'amour comme non suffisant et non nécessaire à la jouissance du corps de l'autre, Lacan évoque l'amour, ce qui apparaît en signe bizarre sur le corps. Ces signes bizarres sur le corps, caractère sexuel secondaire comme amure, j'y entends le mur qui fait image d'un sexe ou féminin ou masculin, mais qui n'assure l'être que d'être asexué, c'est-à-dire de ne jouir que par A. Condition pour le névrosé que le fantasme d'où il désire qui occupe la place du non-rapport sexuel. Ces signes qui apparaissent à la puberté, par exemple, sont loin de satisfaire le n'importe quel par-l'être. Les psychanalystes savent combien, par exemple, chez la jeune anorexique, ces signes lui sont encombrants. Elle tente d'effacer la chair. De même, pour aller plus loin, ces transsexuels qui veulent changer de sexe parce qu'ils se sentent autres que le man de leur corps. Ce sont ces signes des nécessités biologiques du corps, bien souvent sans son accord, sans l'accord de l'être qui les porte. Trace sur la mûre, dont ne sourd pas non plus le nécessaire et suffisant de la jouissance du corps en tant qu'il symbolise l'autre. Alors, page 12, en haut de la page, ce ne sont pas de ces traces que dépend la jouissance du corps en tant qu'il symbolise l'autre. Donc, équivalence entre corps de l'autre qui le symbolise et corps en tant qu'il symbolise l'autre. C'est deux variations du même dire de Lacan. Alors, Lacan reparle de l'amour dont l'idée serait de faire un. Cette croyance au faire un dans l'amour, parce que l'individualisme a pris une place qui remet profondément en cause le lien et les liens, se traduit, me semble-t-il, différemment actuellement. On y croit toujours à l'amour. Mais au moindre conflit, dispute ou désamour, le couple se sépare, chacun continuant d'y croire pour une prochaine rencontre. Lacan ensuite articule la faille du désir, faille et division, qui n'assure un sujet que d'être représenté que par un signifiant auprès d'un autre signifiant, et donc le seul un qui soit lui vient du signifiant. Alors on pourrait écrire « désir », c'est-à-dire sujet barré, de fuir sous S1, S2, 1, être, jouissance, et ça donne alors un hétéroclite qui est loin de faire un, et pourtant. Dans l'amour, le seul un qui soit, c'est l'image, I2A, l'habit qui fait le moine, et Lacan parle des habits et accoutrements si chers à l'homme et surtout à la femme. Se parer pour paraître et sembler chez une femme être le phallus, piège au désir de l'homme et jeu de la séduction. Alors, ensuite, il parle du corps. Je dois dire le corps comme A. Alors, cette phrase sur le corps dénudé comme reste est pour moi assez obscure. Il est pur reste, me semble-t-il, comme cadavre. mais en même temps, j'entends bien que c'est le corps A qui fait cause du désir, et peut-être pas même le corps, mais un bout de corps. D'ailleurs, voir le corps entier dans le dénuement sexuel suppose des montages spécifiques, propres à la pulsion scopique, et il reste toujours d'ailleurs un angle mort. Autrement, sans cela, ce ne sont que des bouts de corps. À propos de Picasso, qu'il cite, grand amateur de femmes devant l'éternel, je remarque que certaines de ses peintures représentent sans cesse des corps de femmes, justement dans une sorte de déconstruction, qui est, me semble-t-il, tout à fait homogène au corps plus ou moins perçu dans un lit où on fait l'amour. Disproportion, rapproché, éloigné, mélange, avec une prévalence de tous les attributs qui lui plaisent, sur le même plan, fesses, seins en même temps, pieds, œil, et parfois un sexe d'homme érigé au milieu de ces morceaux de femme, phallus d'être coupé. Dans la conférence la troisième, Lacan parle du rapport de l'homme à son image. Lui, le corps, s'introduit dans l'économie de la jouissance par l'image du corps. Le rapport de l'homme avec son corps, s'il y a quelque chose qui souligne bien qu'il est imaginaire, c'est la portée qui prend l'image. Et il parle alors de la prévalence de l'image due à la prématuration corporelle de l'enfant. Donc l'amour, qui est un plus d'être, mais ne sature pas le manque à être, ou il le sature momentanément, dans la passion amoureuse par exemple. Au niveau du lit des hétéros, les jouissances sont en désaccord. Il n'y a pas de jouissance liante, il n'y a pas de commune mesure de la jouissance. Il y a une inadéquation de la jouissance du corps de l'autre à s'apparier avec la jouissance d'un autre corps. À partir de là, dans le texte, Lacan enchaîne ensuite sur la jouissance phallique, où une femme ne s'y inscrit que pas toute. Il faut dire que cette question de la jouissance phallique est assez complexe. Il y a côté homme la jouissance de l'organe pénien, dont Lacan parle d'ailleurs longuement dans le séminaire L'Angoisse, avec la chute, la détumescence. L'organe ne peut satisfaire que d'une façon discontinue. Il faut un peu de temps pour se reprendre, pour qu'il se reprenne. Il en parle aussi dans la conférence sur le symptôme, en parlant des premières éjaculations du garçon qui crèvent l'écran de l'imaginaire. C'est quoi ça et qu'en faire ? D'où la formulation de Lacan sur une jouissance hors corps. Là, c'est le souvenir d'une première fois. Et on peut penser que l'usage tranquillisera l'homme, bien que Lacan parle de l'homme affligé, A-P-H-L-Y, du phallus en jouant de l'écriture. Phallus toujours plus ou moins encombrant pour lui. Cela m'a fait penser à ce livre plein d'humour d'Alberto Moravia, que j'ai lu il y a fort longtemps, je ne sais pas s'il me plairait autant maintenant, qui s'appelait « Moi et lui ». Je le cite. « Avec lui, je suis faible. » Il parle de son sexe. « Avec lui, je suis faible. Je ne peux imposer mes volontés. Le détacher de ma personne serait plus aisé pour vivre tranquille. » Autour de cette jouissance de l'organe, il peut y avoir des symptômes qui motivent une demande d'analyse. Voilà comment Lacan parle de l'organe dans l'étourdi. Cet organe, passé au signifiant, creuse la place d'où prend effet, pour le parlant, suivons-le à ce qu'il se pense, être l'inexistence du rapport sexuel. Alors, comment parler de la jouissance phallique des femmes ? D'abord, il faut penser, me semble-t-il, qu'une femme n'est désirée sexuellement que quod castrationem, sous le signe de la mère, nous dit Lacan, mais elle est tout comme l'homme soumise au langage et à la parole, et le phallique n'est pas que l'organe, mais justement, d'en devenir insignifiant, il concerne éminemment une femme. Dès qu'on parle, on est dans le phallique. Le langage est donc le moyen d'une jouissance hors corps phallique. Alors ensuite, donc, il parle d'une façon très claire, me semble-t-il, de la jouissance phallique. La jouissance phallique est l'obstacle par quoi l'homme n'arrive pas à jouir du corps de la femme, précisément parce que ce dont il jouit, c'est la jouissance de l'organe. Et d'ajouter ensuite cette petite remarque qui n'est pas rien, puisque cela a à voir avec l'infini, la jouissance du corps de l'autre ne se promeut que dans l'infinitude. Et nous voilà avec le paradoxe de Zénon d'Élée, qui vivait 490 ans avant Jésus-Christ. Je trouve ça toujours étonnant que ça arrive là, à nos jours. Si on avait la même force au niveau de la psychanalyse, ça serait chouette. Ça nous mettrait dans les 4500 ans, si la Terre existe encore. École philosophique des Éléates, qui font suite à Pythagore et à Parménide. Des sachants d'avant la science, mais solidement ancrés dans la mathématique et la philosophie. Zénon va nier la possibilité du mouvement. La démonstration importante est fondée sur les difficultés que recèle le concept d'infini quand on le divise à l'infini. L'argument est qu'il rejette le mouvement. Un corps en mouvement ne peut jamais franchir une longueur donnée puisqu'il doit avoir parcouru tous les espaces intermédiaires qui sont infinis en nombre, et c'est ainsi qu'Achille ne rejoindra jamais la tortue quand celle-ci a pris au départ une avance. Zénon souligne la difficulté donc de penser la division infinie et donc l'étendue infinie, d'où la conclusion du mouvement impossible et illusoire. Ainsi, avec le paradoxe de Zénon, Lacan illustre la faille entre des jouissances impossibles à faire du ensemble et du un. Chacun rend service de jouissance à l'autre, mais reste décalé. D'ailleurs, c'est plutôt étrange cette comparaison avec la tortue. Mais enfin, gardons-en le raisonnement, raisonnement qui nous vient de la nuit des temps. Je ne sais pas ce qui a transformé cette pauvre Briseis en tortue, mais avec les dieux réels, tout est possible. Et quelqu'un ici doit peut-être le savoir. Alors, d'un côté, la jouissance phallique, de l'autre, une béance, une faille dans la jouissance. Et là, Lacan redit la même question d'une autre façon. D'où pourrait-elle cette faille, cette béance, se réaliser? Je cite la phrase entière. « De l'autre côté, quelque chose peut-il s'atteindre qui nous dirait comment ce qui jusqu'ici n'est que faille, béance dans la jouissance, serait réalisé ?» Là, c'est la question essentielle sur la jouissance infinie féminine qui fait écho et est reformulation de la phrase que nous travaillons ce soir. D'où part ce qui est capable de répondre par la jouissance du corps de l'autre. On voit bien l'extrême difficulté de parler de cette jouissance infinie, du fait même du langage, qui n'est comptable que du plus ou du moins, des ordres de grandeur qui font la rivalité humaine la plus ordinaire. Les hommes aiment compter leurs conquêtes féminines, mais ce n'est pas ce comptage qui les assure de la jouissance du corps d'une femme, ou l'autre du langage, ou de ce qui en reste d'inconscient opaque, s'incarne pour le partenaire. Les femmes ne sont pas toutes, mais elles ne sont pas toutes une par une, divisées en elles-mêmes, entre un certain îlot phallique et une jouissance sans amère, amère pour employer un terme de Marine, jouissance qui peut la déborder pour continuer la métaphore Marine. Le langage est d'avant tout sujet dont les copeaux d'usure sont la langue propre à chacun, et servent à la jouissance du sonore qui résonne dans le corps. Dans l'espace de la jouissance sexuelle, l'être sexué d'une femme ne passe pas par le corps, mais par une exigence de parole, une exigence logique du un dans la parole. Et voilà la réponse que donne Lacan à cette question. D'où part ce qui est capable de répondre par la jouissance du corps de l'autre. C'est de l'autre que vient cette exigence du un. Voilà la réponse non nécessaire, non suffisante, c'est-à-dire que ce n'est pas joué d'avance. Alors, peut-on parler de ce qui répond pour certaines femmes, pas pour toutes femmes, à cette jouissance qui peut la déborder? La réponse du un exigée par l'autre dans la parole. Et je parlerai d'un minimum du au moins une pour certains hommes qui ont préoccupation d'assurer la jouissance de la vie au-delà d'une consommation phallique et de tenter d'y rencontrer quelque chose comme l'autre, toujours raté dans la rencontre, mais ne se défilant pas à assurer ce un de parole. Drame de l'amour quand ce un se rompt pour une femme, comme si elle perdait l'axe de son être sexué. La jouissance sexuelle d'une pas toute exige pour se réaliser l'appel parlé du un. L'être féminin ne répondrait de l'infinitude de sa jouissance comme incarnant l'autre du langage que par une nécessité logique de faire exister ce un. Une sorte d'appel dans la parole. Appel à, extrêmement délicat pour le tenant de cette adresse, le partenaire donc, mais aussi pour l'appelante. C'est donc la contingence de la rencontre qui peut assurer ce « une » pour une femme. Lacan va ensuite illustrer son propos par Don Juan pour donner une représentation de ce qu'est le sexe masculin pour les femmes du point de vue des femmes. Je dois dire que j'ai toujours beaucoup de mal à saisir ce que Lacan veut nous faire entendre dans ce propos. Est-ce le fait que Don Juan soit toujours prêt, comme le scout, et qu'ainsi il représente mythiquement l'infinitude d'une jouissance féminine, ou est-ce le fait qu'à chaque fois, ce soit celle-là et aucune autre, jusqu'à la prochaine? Alors je reste sur cette mi-question, mi-réponse, mais j'opte quand même pour la seconde, celle-là, aucune autre. En effet, être cette une à conquérir par Don Juan, lui qui ne peut supporter d'en désirer une qui lui échapperait, donne un point d'appel extraordinaire à l'existence d'une femme, d'être l'unique jusqu'à la suivante, ce qui en général lui est beaucoup moins gai. Voilà. Alors, je laisse la parole à Sylvane.
Merci. Pour vous dire, sans l'intention de vous surprendre, combien entre les hommes et les femmes ça peut être compliqué, voire impossible, je vais commencer par vous citer Lacan, lui-même citant le poète Antoine Dutal, à la page 289 des Écrits. Entre l'homme et l'amour, il y a une femme. Entre l'homme et la femme, il y a un monde. Entre l'homme et le monde, il y a un mur. La mur va être la première réponse que Lacan va donner à la question qui nous réunit ce soir, puisqu'il va nous faire savoir que ce n'est pas de l'amour, mais de la mur, d'où part ce qui est capable de façon non nécessaire et non suffisante de répondre par la jouissance du corps de l'autre. D'où part, déjà dans la phrase, il va nous avertir que si l'amour va être le point de départ de ce qui est capable de répondre par la jouissance du corps de l'autre, il n'est pas la condition nécessaire ou suffisante. Autant l'amour, comme nous dit Lacan dans ses chapitres, sont ces signes sur les corps que nous connaissons par caractère sexuel secondaire, autant il va insister sur la place secondaire non déterminante de ces caractères. Puisque d'emblée, ils ne souffriront pas pour faire d'un homme un homme, et d'une femme une femme. Plus encore, ils ne souffriront pas pour déterminer leur mode de jouissance comme homme ou comme femme. En tant que par l'être, habité par le langage, le sujet de Lacan est divisé par les signifiants. Dans cette division, un manque, une privation qui les concernera toujours. Sujet châtré, l'homme va être confronté à la castration symbolique et la femme va voir confirmer sa condition du patoute. Déjà patoute dans son corps, la femme ne risque pas d'être privée du pénis qu'elle n'a jamais eu, mais verra ses manques confirmés par l'absence d'un signifiant qui la représente. La femme patoute, qui n'existe pas en tant que la femme, avec un grand L, sera représentée par Lacan comme un espace ouvert, illimité. Faute d'un signifiant qui la représente, ce qui reste hors langage chez la femme l'approche de l'autre, avec un grand A. De l'autre lacanien, l'autre barré, marqué par l'incomplétude de la langue. La femme patoute serait concernée par une jouissance autre, avec un grand A, que la jouissance phallique. Je vous cite Lacan à la page 13 du séminaire encore. La femme a une position patoute à l'endroit de la jouissance phallique. Donc, sexuellement parlant, au mieux sexuellement par l'être, c'est le cas de le dire, rien n'est prédisposé ou garanti par les caractères sexuels secondaires. Il suffit de côtoyer des petits-enfants dans notre entourage ou dans les travaux cliniques pour témoigner de leurs questions et angoisses par rapport à la castration et la mise en place du phallus. Encore récemment, mon attention a été attirée lors de la rencontre clinique avec un petit garçon de 3 ans et demi, lequel plusieurs fois, au cours de ses séances, touchait son pénis en posant la main sur son pantalon. Un geste rapide, très discret. Il ne s'agissait pas d'un geste masturbatoire. Il s'y touchait à peine et retirait immédiatement la main. Il m'a fait comprendre plus tard qu'en touchant de temps en temps son pénis, il voulait simplement se rassurer qu'il était toujours là. En effet, après m'avoir fait savoir, je les cite, que son zizi le gênait, qu'il ne l'aimait pas, qu'il ne le voulait plus, il m'a raconté en colère que quelques jours auparavant, sa petite sœur de 2 ans avait pris son zizi. Elle l'avait tiré très fort en lui faisant du mal. Il était d'autant plus indigné qu'ensuite sa sœur avait pleuré et que sa mère l'avait disputé à lui. Qu'est du mal entendu tout ça, avait été ma réponse face à son regard qui semblait chercher de ma part un peu de solidarité. Tous châtrés, les sujets repartent non pas de zéro, mais d'un manque fondateur. Leur mode de jouissance va dépendre de leurs moyens, de la façon par laquelle ils vont s'organiser autour du manque et des signifiants qu'ils ont divisés. Parmi ces signifiants, un va se démarquer pour sa place d'exception, puisque coupé de sa signification. C'est les phallus. Les phallus, c'est ce qui n'existe pas, qui n'a jamais existé. Les phallus est le signifiant du manque. Du manque du pénis de la mère, de celui de la petite sœur du petit garçon. Si les phallus, mis en place par la castration, essayent d'y rendre possible, fait des efforts pour suppléer en tant que signifiant, l'autre, avec un grand A, renvoie toujours à autre chose, au vide du manque d'un signifiant qui puisse tout représenter. Il n'y aura pas de jouissance du corps de l'autre, parce que le phallus, au mieux, les rapports à la jouissance phallique, va faire obstacle. Il semblerait donc s'agir de 2 formes de jouissance. La jouissance phallique, jouissance masculine, en tant que, comme nous dit Lacan, l'homme est pourvu de l'organe dit phallique, et celle de l'autre, avec un grand A toujours. Sachant que celle de l'autre est ouverte, vise un au-delà du langage, un au-delà de la fermeture phallique. C'est la jouissance qui concerne la femme pas toute, même si, comme nous dit Lacan, elles, les femmes, ne peuvent rien dire. Pour l'homme et la femme, positionnés de façon différente face à la jouissance, qui devient leur rencontre sexuelle. Il y a des couites, nous dit Lacan, mais pas de rapports sexuels. Dans les trouvailles des corps du corps de l'autre, avec un grand A, il n'y a pas de rencontre. Il y a les ratages de l'idéal de l'un du rapport sexuel. Il y a des rencontres des corps, mais qu'en ce qui concerne la jouissance, est loin de la complétude de l'un. Et on ne pourra pas l'attraper, ces corps, qui par morceaux, par des petits bouts, puisque la jouissance serait elle-même découpée par l'autre du langage. Finalement, la sexualité ne semble pas être toujours une partie du plaisir. Car, en effet,
les plaisirs qu'on cherche n'est pas forcément celui qu'on finit par retrouver. Nous allons voir plus tard dans un corps que la jouissance dont il s'agit dans la rencontre de deux sujets, c'est celle de l'inconscient. Je vous cite Lacan dans RSI, « Seuls les signifiants copulent dans l'inconscient. » Ce qui, orienté toujours par Lacan, cette fois dans Joyce, semble nous permettre de dire que quand on jouit du corps de l'autre, avec un grand A, c'est avec son inconscient qu'on fait l'amour. Faire l'amour avec son inconscient. Quand je lus la première fois la phrase qui devrait orienter mon travail de ce soir, j'ai pensé à une personne qui est venue me voir récemment. Cette rencontre clinique me semblait illustrer que dans la rencontre du corps de l'autre avec un grand A, dans la rencontre du corps qui l'incarne, ce grand autre, il y aura toujours quelque chose qui ne sera pas nécessaire ni surtout suffisante. Il y aura toujours quelque chose qui échappe. Il s'agit d'un homme qui m'a impressionné d'abord par sa grande taille et corpulence. Dès notre premier rendez-vous, ce colosse, assis devant moi, fond en larmes. Comme tout un chacun, il souffrait d'amour. Sa compagne, avec qui il avait partagé sa vie quelques années, l'avait quitté. Je vous passe les détails pour n'en garder qu'un, concernant leur mode de jouissance et l'impossibilité du rapport sexuel. Pour pouvoir jouir, cet homme demandait à sa femme, à celle qu'il aimait, d'aller coucher avec un autre homme. Et puis, une fois rentré lors de leur quit, c'est bien ça, parce que chaque fois que j'ai dit quit, vous me regardez.
Oui, j'avais
chaque fois que vous me dites, j'ai dit quit, vous me regardez d'un air un peu surpris. Comment on dit alors?
Quit.
Quit. J'ai pensé que je disais ça, mais non. D'accord. Ok.
On entend quick.
Ok. C'est pas quick, c'est quit. Vous entendez quick, c'est quit. Nous sommes bien d'accord. Alors, et puis une fois rentré lors de leur quit, il attendait qu'elle puisse lui parler, lui raconter ce que l'autre lui avait dit, ce que l'autre lui avait fait. Cette situation a duré quelques années sans que sa femme ne questionne jamais cette demande, jusqu'à que, à cause de cela, elle décide de partir. Pour lui, ce fut le choc, l'étonnement. Car selon lui, sa femme, en plus de lui laisser croire qu'elle était d'accord avec cette pratique, l'avait témoigné du combien que cette pratique l'apportait à elle aussi du plaisir. Pendant quelques mois, lors de ces séances, ce monsieur n'a pas pu parler d'autre chose que de cette femme, sa peine d'amour, et de ce qu'il appelait un désastreux malentendu. J'ai essayé sans succès de lui décoller un peu de son discours figé sur cette plainte et de la personne et de sa femme sans trop y arriver. Jusqu'à ce qu'un jour, à partir de ce que dans son discours j'avais pu entendre de l'histoire de sa compagne, puisque c'était que d'elle qu'il parlait, je me suis permis de lui dire que cette femme semblait chercher à s'y faire maltraiter par les hommes. Ma remarque a eu pour effet d'estomper son discours, sa ritournelle. Après un très long moment de silence, il a pu dire, je le cite, « Si elle cherche à s'y faire maltraiter par les hommes, moi, je cherche à m'y faire abandonner par les femmes. » Et d'une autre place dans ce travail qu'il débutait, il a pu lister la série de ses vécus d'abandon, à commencer par celui de sa mère biologique. Cet homme de 36 ans a pu alors partager qu'il avait appris depuis peu, à l'âge de 34 ans, avoir été adopté par ses parents. Pour pouvoir jouir les pratiques sexuelles de cet homme, toujours originales, du contenu plus ou moins pervers, variait à chaque rencontre avec une femme, une par une. Ce qui ne changeait pas, c'était le chercher à s'y faire abandonner, à la fin, par chacune d'entre elles. Ce n'était pas du corps, du sexe de sa femme qu'il jouissait. Nous pouvons penser qu'au-delà de son corps, de son sexe, c'est du corps de l'autre, avec un grand A, de l'autre, de son histoire, qu'il jouit. La jouissance, elle est aussi pas toute. La jouissance, elle aussi pas toute, semblerait être toujours autre, celle de l'autre, avec un grand A, insaisissable. Ô combien les analystes, mais pas que, entendent parler d'amour. Les hommes et les femmes parlent d'amour, souffrent de sa présence ou de son absence. L'amour, nous a appris Lacan, c'est donner ce qu'on n'a justement pas. Ce qui nous empêche de toujours les chercher et d'essayer de l'avoir. L'amour, je tiens à vous rassurer, est nécessaire. L'amour est nécessaire, mais pas suffisant. Il est insuffisant dans sa démarche du faire un. Pas de relation de, D'EUX, nous dit Lacan. L'amour cherche à suppléer l'impossible du rapport sexuel. Comment peut-on demander à deux du faire un, du faire exister les rapports sexuels autrement que par les malentendus d'amour? Aime-moi comme je t'aime, jouis-moi comme je t'ai joui, comme dans les bals masqués, les malentendus. Puisque derrière les masques, ce n'était pas elle, ce n'était pas lui. J'avais l'intention de rester là, mais je ne peux pas m'empêcher de partager avec vous une toute petite anecdote qui m'est arrivée pendant que j'écrivais ces textes. Parle-moi d'amour, parle-moi d'amour. C'était le titre que j'avais donné à cet exposé. Parle-moi d'amour. J'essayais d'écrire ces quelques lignes, non sans quelques difficultés, quand ma fille, qui aura bientôt 16 ans, rentre dans mon bureau, où j'étais accrochée à mon ordinateur depuis plusieurs heures. Je ne me souviens plus ce qu'elle est venue faire, mais ce dont je me souviens, c'est qu'elle a essayé de discuter un peu et que je répondais de façon monosyllabique, essayant de rester concentrée sur mon travail. Elle m'a demandé alors si c'était dur ce que j'étais en train de faire. Je lui ai répondu « très ». Puis, quelques secondes plus tard, elle m'a demandé si j'allais être notée. Déjà moins concentrée, mais toujours sur l'ordinateur, je lui ai dit que non, mais qui, hélas, n'est pas être notée, ne rendait pas pour autant la tâche plus facile. Elle n'a dit plus rien, je m'y remets à nouveau au travail, quand quelques secondes plus de silence plus tard, surprise qu'elle soit encore là, je l'entends toujours derrière moi dire, de façon posée, « Il manque un O à un mur. » Je lui dis que c'était fait exprès, que Lacan l'avait écrit ainsi pour laisser entendre que dans la rencontre entre les hommes et les femmes, il y avait un mur. Un mur qui entourait un espace où s'y trouvaient les désirs. J'étais donc en train de me demander si je n'avais pas pu trouver une autre explication à lui donner, parce que ce n'est pas évident comme explication pour une jeune de 16 ans, quand, déjà en quittant mon bureau, je l'entends d'un ton réfléchi donner raison, c'est que c'est rare quand on a 16 ans, à Lacan. Elle dit « Un mur. Ah oui, c'est vrai qu'il y en a un gros. Il manque un O amour. Le manque dans l'amour, c'est ça ce qui a frappé dans l'œil de cette jeune fille en lisant mon texte. Restaurer avec l'amour, chercher à recouvrir le manque du haut d'amour, c'est ce que nous cherchons à faire tous, inépuisablement et encore. Merci.
Merci. Pas très simple parce que la phrase était très courte et on se dispute tous les trois sur une malheureuse petite phrase. Alors je vais essayer de pas trop redire de choses que vous avez si bien dites toutes les deux. Moi je remarque, bon, j'ai pris une phrase un petit peu plus loin. Où Lacan dit « il y a des traces sur la mur ». Ça me plaît, ça. Il y a des traces sur la mur. Et je crois que, en s'amusant à dire qu'entre hommes et femmes, il y a la mur, Lacan condense extrêmement ce qu'il veut nous faire entendre. Hein ? Certes, il veut nous faire entendre qu'entre hommes et femmes, il y a l'amour, hein, mais qu'il y a aussi un mur. Il y a un mur, et je dirais, il n'y a pas de quoi s'en lamenter. Je reviens de Jérusalem. Hein. Considérons plutôt les vertus du mur, puisqu'il est un lieu nécessaire à toutes les représentations. Hommes et femmes sont des semblants qui copule sur le mur du discours, puisque tout discours a la structure d'un mur, à la surface duquel on voit apparaître des semblants que l'on associe entre eux pour produire du sens. Vous rappelez, c'est la leçon de peinture de Léonard de Vinci, hein, qui disait à ses élèves, avant de peindre, regardez le vieux mur, et puis vous allez voir tout d'un coup apparaître à la place des fissures et du salpêtre le dos d'un athlète, une bataille navale, etc. Donc le mur, c'est le lieu où l'on voit apparaître des semblants qu'on associe les uns aux autres pour produire du sens, et surtout du jouissance. Et cependant, il ne faut pas oublier qu'au-delà du mur des représentations, il y a ce fameux objet ptita qui fait le mur d'une autre façon. Et puis, je me suis dit que, outre la métaphore du mur, il y a aussi la mure. C'est un terme de la marine à voile. La mure, c'est le cordage qui est frappé au bord libre de la voile et qui passe par un trou dans la coque, le mur, hein, à bâbord ou à tribord, et puis qui se borde du côté, enfin sur le bord opposé. Et ainsi, selon que l'on borde l'écoute à tribord ou à bâbord, eh bien on dit que l'on navigue tribord à mur ou bâbord à mur. Autrement dit, l'amure en navigation à voile, c'est une allure. C'est-à-dire une direction que l'on prend par rapport au lit du vent. Après tout, on pourrait se laisser aller à dire qu'on peut se donner au choix l'amure d'un homme ou l'amure d'une femme. Ça ravirait les fervents partisans des gender studies, très en vogue dans nos universités. Mais attention, à vouloir réduire le réel du sexe à une combinatoire purement signifiante, donc purement dialectique, on va peut-être un peu vite en besogne. Et quand j'évoque cette affaire de prendre l'amure d'un homme ou l'amure d'une femme, ce n'est jamais qu'une allure. Certes, c'est efficace, hein, au moins dans un premier temps, mais rapidement, ça tourne court, puisqu'à la sortie du bal des incohérents, cher à Alphonse Allais, ce n'est jamais lui, jamais elle non plus, et la méprise est en fait inscrite sur le billet d'entrée. Alors il y a des traces sur la mûre. Et ces traces forcément suspectes viennent faire obstacle à la réduction complète du sexe à la comédie signifiante du genre. Il serait, à mon sens, parfaitement inopérant d'opposer le réel du sexe au symbolique du genre. Ce n'est pas ou l'un ou l'autre. On aurait tout intérêt à considérer plutôt comment il se noue, justement par l'intermédiaire de l'image du corps. Il y a des traces sur la mûre. Et Lacan nous dit que, vous l'avez signalé toutes les deux, que ces traces nous renvoient à ces signes qui apparaissent sur le corps, ces caractères sexuels dits secondaires. Mais pour être secondaires, ils n'en sont pas moins réels. Et dans cette leçon encore que nous commentons, Lacan dit cette phrase qui m'a laissé longtemps perplexe. Ce ne sont pas de ces traces que dépend la jouissance du corps en tant qu'il symbolise l'autre avec un grand A. Je crois que s'il précise la jouissance du corps en tant qu'il symbolise l'autre, c'est qu'il s'agit du corps symbolique. Eh bien, je crois que ce corps symbolique est certainement très facilement marqué d'un genre, mais il n'est pas sexué. Les traces réelles du sexe sont ailleurs, sur la mûre, mais elles restent en marge du corps symbolique, de la même façon qu'elles sont élidées de l'image idéale. Et en commentant à ma façon cette petite phrase qui me restait difficile à saisir, j'ai pensé à l'histoire d'un patient qui me pose un certain nombre de problèmes. C'est un homme d'une quarantaine d'années qui est venu me consulter, pressé par sa femme de mettre fin à des pratiques de travestisme et des fréquentations assidues de sites transsexuels qu'elle venait de découvrir. Cet homme porte à la surface de son corps des traces évidentes, c'est-à-dire des caractères sexuels secondaires qui lui donne une allure masculine très marquée, et j'avoue que je l'imagine mal travesti en femme, à moins qu'il veuille se recycler dans le comique troupier. Dans son histoire, on repère qu'il a été élevé par une mère célibataire, un père alcoolique qui ne s'est jamais intéressé à lui, et très vite dans nos entretiens, il se souvient que sa mère s'amusait à l'habiller comme une petite fille. Ces pratiques de travestisme n'ont commencé en fait qu'au moment où il est devenu père pour la première fois. Alors il vient me voir très assidûment et il cherche vraiment à se défaire de ses mauvaises habitudes. Pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas perdre sa femme. Il l'aime, mais depuis qu'il en a fait la mère de son premier enfant, il ne cherche plus à en faire son symptôme. Son symptôme, je dirais, c'est lui-même, travesti en femme, et dans des circonstances bien particulières qu'il m'a détaillées. C'est un homme qui travaille en soirée jusqu'au cœur de la nuit. Et près de son travail, il a localisé ce qu'il appelle un point relais, où des gens viennent déposer des vêtements dont ils n'ont plus l'usage. Alors il s'est débrouillé pour trouver le moyen d'ouvrir le conteneur et il choisit là chaussures, jupes et sous-vêtements. Par ailleurs, il s'est acheté une perruque et des bas. Et avec cet attirail, pratiquement chaque nuit, au sortir de son poste de travail, il prend sa voiture. Il fait quelques kilomètres, il se gare dans un endroit reculé en rase campagne, dans la nuit, et se travestit, se maquille et reprend le volant, travesti en femme. Alors là, il parcourt une quinzaine de kilomètres sur la grande route, très excité de pouvoir tromper son monde et vaguement angoissé à l'idée d'être démasqué. Puis, comme il se rapproche de son domicile, à nouveau, il gare sa voiture dans un nouvel endroit tranquille, se démaquille, se change et rentre chez lui pour retrouver sa famille endormie. Il m'explique aussi qu'il ne peut s'empêcher d'aller visiter des sites internet sur lesquels il peut assister à des ébats entre hommes et transsexuels. C'est ça son truc. Mais les conditions de sa jouissance ne sont pas claires. Jouit-il de s'imaginer à la place de cette femme dotée d'un pénis et subissant la sodomie, ou jouit-il à l'idée de sodomiser un homme féminisé? Il ne peut pas me répondre. En tout cas, il tient à m'assurer qu'il ne se sent pas homosexuel. Son plaisir, c'est de se regarder en femme. Mais surtout pas dans un miroir, et il me le précise. Il se maquille dans le petit miroir de courtoisie de sa voiture qu'il a garé loin de tout réverbère, donc il ne doit pas y voir grand-chose. Mais s'il se considère comme une femme, c'est depuis un point symbolique qui est sans doute l'idéal du moi d'où sa mère le regardait. Ce corps symbolique de femme qu'il incarne dans ce moment-là scotomise le réel de ses caractères sexuels secondaires que, évidemment, ni son maquillage ni son accoutrement ne peuvent élider. Et le jour où il m'a décrit dans le détail son rituel de la nuit, je me suis permis d'émettre des doutes sur la valeur esthétique de l'image féminine produite. J'opérais ainsi un petit changement de perspective, au point qu'il a cessé un temps de se voir dans ce corps symbolique de la jolie femme vue depuis le regard de l'autre. À la place, il s'est dit « Mais de quoi ai-je l'air comme ça ?» C'est exactement la question que je me posais. Et l'envie lui a passé. Il a tenu 6 mois et il s'est mis à espacer nos rendez-vous avec toutes sortes d'excuses. De toute façon, il allait très bien, il était libéré de son addiction et n'avait plus grand-chose à me dire jusqu'au jour où il est revenu me dire que tout avait repris de plus belle. La jouissance du corps de l'autre est chez lui purement auto-érotique. Il jouit du corps symbolique qu'il se sent être quand il recouvre son être masculin de ses habits féminins. Habituellement, on jouit plutôt d'un corps que l'on déshabille. C'est une remarque de Lacan tout à fait pertinente. Chez lui, c'est le contraire. Il jouit d'un corps qu'il habille. Si pour Lacan, l'habit aime le moine, on pourrait rajouter que le moine le lui rend bien, puisque l'amour est toujours réciproque. Mais ce qui reste élidé dans l'affaire, ce sont ses traces sous la bure, corréla de ce point de regard au-delà de la mure. Si la jouissance du corps de l'autre n'est pas le signe de l'amour, on pourrait se demander de quoi elle fait signe. Eh bien, je vais prendre la question par le biais du jouir de. Jouir de quelque chose, c'est le posséder. Concernant ce qui se passe au lit entre deux partenaires, si l'un jouit du corps de l'autre, ça ne dit rien sur ce que l'autre ressent de ce que l'on jouisse de son corps. Hein ? Mais laissons en suspens cette question brûlante pour certains. Je jouis de ton corps revient à dire que ton corps devient la métaphore de ma jouissance. Vous reconnaissez là la fonction du symptôme comme partenaire, celui dont le corps métaphorise la jouissance de l'autre. Autrement dit, jouir du corps de l'autre fait signe non pas de l'amour, mais du symptôme. Mais à qui cela fait signe? Pas à celui qui fait du corps de l'autre la métaphore de sa jouissance. Celui-ci ne voit en général pas le signe qu'il émet. C'est plutôt le partenaire qui le perçoit. Et encore, il faudrait préciser que cela fait signe surtout à son inconscient. Alors, opposer le symptôme à l'amour, c'est très classique. La libido masculine tente à dissocier le partenaire, la femme de l'amour d'un côté, la femme symptôme de l'autre. L'homme jouit du corps de la femme symptôme et il aime la femme de l'amour. Cette tactique masculine classique n'interdit d'ailleurs pas qu'une femme puisse l'utiliser elle aussi. Mais c'est quand même moins courant. Les femmes que j'écoute sont en majorité plus intéressées par l'idée d'unifier leur objet. Et elles font tout ce qu'elles peuvent pour que leur partenaire en fasse autant. Il y a toujours dans l'amour cette visée vers le 1. Deuxième vignette clinique. J'ai entendu parler d'une femme venue entreprendre une analyse pour traiter le malaise qu'elle vit dans son couple. Elle aime un homme qui le lui rend bien. C'est donc un amour au vrai sens du terme, c'est-à-dire un sentiment réciproque. Mais le petit problème, c'est que lui, il préfère en trouver d'autres, des femmes de passage, des femmes dont c'est le métier, pour assurer la fonction du symptôme. Donc cette femme souffre dès que son mari s'échappe, car elle sait très bien où il va. Mais prudente, elle ne veut pas s'en plaindre auprès de lui, parce qu'elle a peur de le perdre. Comme ils s'aiment, ils essayent en toute loyauté de remédier à cette affaire, et le monsieur souhaite ardemment initier son épouse au rôle de symptôme qu'il voudrait lui faire jouer. Pour cela, il voudrait la faire entrer dans une boutique spécialisée. Elle s'y refuse dans un premier temps. Puis elle finit par accepter, à la condition que ce soit lui qui choisisse les accessoires qu'il voudrait lui voir porter. Surprise ! Ce que cet homme a choisi pour sa femme, c'est un godemiché monté sur une ceinture. En fait, cet homme pur jus rêve d'occuper la place du symptôme pour son épouse équipée avec cette prothèse. Cette patiente se plaint de ne pouvoir trouver sa place de symptôme auprès de l'homme qu'elle aime, mais les coordonnées fantasmatiques du mari sont complexes et cela impliquerait qu'elle adopte sa perversion et fasse comme si elle faisait de lui son symptôme. Évidemment, tout est dans le « comme si ». C'est pour de rire, comme disent les enfants, parce qu'en fait, elle n'y tient pas. Si elle s'y résolvait, ce ne serait que par amour. Mais ce serait risqué, car rien ne garantit qu'à accepter cette pantomime, elle conserve son statut de femme aimée. La crainte de perdre cet amour est chez elle équivalente à l'angoisse de castration. Quant à lui, au-delà de l'usage significatif qu'il fait du phallus pour faire objection au service à rendre à sa partenaire, il veut qu'elle soit le phallus puisqu'il l'aime, mais il lui demande aussi de faire semblant de l'avoir, ce qui lui permettrait à lui de goûter à la jouissance féminine sans avoir à se faire femme pour un homme, c'est-à-dire sans subir la castration. Dans les vicissitudes de ce couple, on voit que les efforts faits par ces deux-là pour essayer d'unifier leur vie amoureuse sont vains, parce que quoi qu'ils fassent, la castration sera toujours au rendez-vous. Si l'on y regarde de près, on voit l'effort fait par chacun pour faire porter l'effet de la castration sur l'autre. Et je vais terminer par une petite référence de Lacan que vous trouverez dans Je parle au mur, puisque ça fait partie des conférences à Sainte-Anne, où Lacan dit « Pour se faire une saine idée de l'amour, il faudrait peut-être partir de ce que quand ça joue, mais sérieusement, entre un homme et une femme, c'est toujours avec l'enjeu de la castration. »
À vous.